Merci, Monsieur le Président. Vous avez eu le point de vue de l'administrativiste, vous avez maintenant le point de vue du non-administrativiste. Deux récentes livraisons de la JDA nous ont donné à lire des points de vue assez radicalement divergents sur la signification attribuée aux trois ordonnances dites Dieudonné. D'un côté, je vais dire à ma droite, mais ensuite la blague pourrait devenir moins drôle, d'un côté s'est exprimée la position sur laquelle ces ordonnances étaient porteuses d'une jurisprudence liberticide. De l'autre, on a fait valoir que la jurisprudence Dieudonné était, je cite, « juridiquement justifiée », en ce sens qu'elle s'arrimait à une législation pénale préexistante, porteuse de valeurs auxquelles le législateur, puis le Conseil d'État, avait manifesté leur attachement. J'incline à penser que les deux positions représentées, j'avais marqué excellemment représentées, dans les articles que j'ai évoqués, et dans un certain nombre d'autres, sont effectivement toutes deux dignes de considération. Et pour comprendre ce paradoxe, je me propose de me situer un peu à côté de la discussion sur le caractère ou non légitime et ou liberticide des ordonnances en approfondissant ce que j'appellerais la manière de juger dont elles sont à mes yeux de très frappantes illustrations. Avant de trancher par un jugement de valeur sur l'intervention du juge des référés dans l'affaire qui nous occupe, je pense aussi qu'il faut se demander de quelle notion de liberté il est ici question. Et on trouvera alors peut-être la solution du paradoxe initial. Une certaine idée de la liberté est bafouée par les ordonnances Dieudonné, mais les mêmes ordonnances peuvent se lire comme une confirmation et une garantie appropriée d'une autre conception des libertés et des valeurs morales républicaines, parce que je pense que la dignité, ce n'est pas une liberté, ce n'est pas non plus un droit. Cette conception, qui serait donc positivement garantie par les ordonnances Dieudonné, elle a une caractéristique sur laquelle je voudrais insister, qui est d'être fortement appuyée sur l'État, l'État comme garant et, pourrait-on dire, comme instituteur des libertés, de la manière dont Pierre Rosanvallon avait dit qu'il était instituteur du social en France. Je voudrais développer deux idées dans ce propos. La première, c'est que l'État n'apparaît pas seulement en droit public comme une personne morale, mais aussi à travers un certain nombre de configurations institutionnelles, de mécanismes, d'énoncés, qui sont autant de marqueurs, de signes permettant de le repérer. Et ces signes sont présents en abondance dans les ordonnances Dieudonné. Ce sera ma première série de développement. Ensuite, et sur cette base-là, je voudrais montrer que ces marqueurs nous indiquent que l'État, alors on pourrait dire certainement pas une fonction, mais un fonctionnement étatique ou un processus étatique, est intervenu pour prendre en charge précisément le dilemme posé par la confrontation des différentes libertés qu'évoquait tout de suite Bertrand, dans l'affaire des spectacles de Dieudonné. Cette intervention de l'État pour imposer une solution dans une situation aussi compliquée illustre à mes yeux le rapport qu'en France la puissance étatique entretient avec les libertés. Et je conclurai, si j'en ai le temps, en disant que rien ne prouve à mes yeux que cette façon de procéder, fortement représentée par les ordonnances de Dieudonné, est encore en harmonie avec l'État de notre société. Alors, le premier ordre de développement, je l'avais appelé « par-delà le référé ». Je voudrais en effet montrer qu'à mon avis, il est intéressant de ne pas s'arrêter à l'analyse contentieuse de ces décisions et d'essayer de comprendre une autre économie qui serait à l'œuvre dans leur rédaction. Les trois décisions posent aux juristes des problèmes qui tiennent au fait qu'elles semblent brouiller quelques distinctions importantes de notre système juridique. On y voit une ordonnance en référé reprendre beaucoup d'éléments, je veux dire de matériaux argumentatifs, textuels, se trouvant dans une circulaire du ministre de l'Intérieur, la circulaire du 6 janvier 2014, adressée au préfet, dite circulaire Valls. Cette circulaire, si on la lit, s'appuie elle-même sur une lecture qui a pu être discutée de la jurisprudence Benjamin, de sorte qu'on a un système en boucle, où une circulaire s'appuie sur de la jurisprudence, et ensuite de la jurisprudence, peut-être selon les préconisations du rapport Martin de 2012, reprend beaucoup de matériel argumentatif contenu dans d'autres jurisprudences, mais aussi donc dans la circulaire. La circulaire cite de la jurisprudence, et la jurisprudence reprend la circulaire. On y voit ensuite la juridiction administrative, citant d'ailleurs à cette fin l'arrêté préfectoral, qui avait interdit le spectacle à Nantes, je pense ici à l'ordonnance numéro 1, Dieudonné. Cette juridiction administrative fait référence à une série de procédures pénales ayant abouti à 9 condamnations. Et dans cette décision, il est mentionné, je parle de la première ordonnance Dieudonné, il est mentionné que les propos contenus dans le spectacle litigieux sont, je cite, pénalement répréhensibles. J'ai eu une petite interrogation à ce sujet-là et un petit embarras. À mon idée, soit un fait est pénalement réprimé, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il n'a à mon avis pas d'existence légale sous sa forme, je dirais, potentielle, c'est-à-dire non pas réprimé, mais répréhensible. A-t-il dès lors sa place dans la motivation d'une décision de justice ? Cet état de choses, à mon avis, avait été pris en compte par le TA de Nantes, dans l'ordonnance censurée du 9 janvier 2014, je ne vais pas la relire en entier, mais le TA disait qu'il n'était pas établi que l'intéressé puisse être regardé, c'est-à-dire M. Dieudonné, comme ayant manifesté l'intention de reprendre les mêmes phrases, de commettre les mêmes infractions, et ajoutait le tribunal administratif, et à mon avis, tout étudiant de deuxième année ayant affaire à un cas pratique aurait à peu près dit ce qu'a dit le TA, en tout cas moi... On va peut-être pas passer en troisième année. Quand tout état de cause, a dit le TA, il appartient aux autorités investies du pouvoir de police de prendre toute disposition utile en vue de la constatation des infractions et de la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions pénales. Je trouve qu'on ne saurait mieux dire, et je trouve que cette formule dessine une ligne au-delà de laquelle le juge administratif, comme a choisi de le faire le Conseil d'État, prend à sa charge une partie de la fonction pénale et même une fonction de prévention des infractions qui va au-delà des tâches de ce qu'on peut considérer être la justice criminelle. Alors, il y a la rétention de sûreté, il y a tout un tas de choses maintenant qui font que la prévention rentre dans les préoccupations de la justice pénale, mais ce sont des évolutions relativement récentes. En tout cas, les trois ordonnances apparaissent comme une réaction à une situation dans laquelle le juge judiciaire n'a pas pu mettre fin à des troubles, tandis que l'autorité de police administrative est présumée, c'est quand même une différence avec le contenu de l'arrêt Benjamin, est présumée ne pas pouvoir y parvenir avec ses forces propres. On voit donc ici le juge administratif prendre le relais de la justice pénale, dont l'intervention semble avoir été inefficace, du moins dans son éventuelle composante préventive. Je dirais même qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de prévention des infractions, mais d'un processus plus complexe où des infractions ont été commises en amont, ces infractions ont conduit à des condamnations pénales. L'exécution de ces condamnations apparemment n'a pas été satisfaisante, complète, et surtout elle n'a pas suffi à faire cesser le flux des infractions commises. Une autre source de perplexité réside dans le fait que les trois ordonnances ont été prises sur la base d'un référé dit « liberté », sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Un réflexe de pensée peut conduire à se persuader que les juges... que le juge n'intervient alors qu'en vue de protéger les libertés fondamentales. À y regarder de plus près, il est permis de penser que l'article en question met en place une sorte de dispositif d'intervention qui, bien que créé pour protéger les libertés fondamentales, donne aussi tous les moyens pour les remettre en cause. Vous avez là toute une série de composantes de ce que l'administrativiste appelle les circonstances exceptionnelles et de ce que le constitutionnaliste appelle la situation d'exception. L'urgence, qui est présente en amont, justification du référé, et en aval, avec le délai de 48 heures, la discrétionnalité dans le choix des mesures, qui fait un petit peu penser aux formules de l'article 16 de la Constitution, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, la référence justement à la nécessité, qui est un marqueur important de l'état d'exception, le critère de gravité, et la référence à un dernier grand marqueur de l'exception, qui est ce qui est manifeste, ici le manifestement illégal. Donc à cette évidence, cette situation d'état évident de nécessité, qui est une partie intégrante de la reconnaissance de la situation d'exception. La protection des libertés fondamentales est certainement présente également dans l'économie et dans le texte même de L521-2. Mais il y a là un jeu complexe, subtil, dans lequel la fondamentalité montre ses fragilités ou ses failles relativement bien connues. D'une part, la fondamentalité est un marqueur vague, disons flou. Le juge qualifie de fondamentale les libertés qu'il décide de préserver, au fond, en tout cas pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, je pense que c'est vrai aussi par exemple pour la voie de fait en droit administratif, est fondamental ce que le juge décide d'appeler fondamental, on dit parfois aussi est fondamental seulement ce qui est constitutionnel ou ce qui est conforme à la légalité, la fondamentalité n'est pas autocréatrice en d'autres termes, elle suppose d'être appuyée sur de la légalité préexistante. Et puis d'autre part, la fondamentalité, me semble-t-il, n'est pas au cœur du droit public français. Ce n'est pas, comme par exemple dans le droit public allemand, un droit dans lequel, pour reprendre le titre d'une excellente thèse, les droits fondamentaux sont le fondement du droit. C'est plutôt un droit de l'État et un droit de ses prérogatives exorbitantes. Ce n'est pas incompatible, ce caractère du droit public français comme droit de l'État, ce n'est pas incompatible avec le respect des libertés et avec une forme de libéralisme juridique. Mais l'État apparaît comme un intermédiaire obligé, y compris quand il s'agit de protéger la fondamentalité de certaines libertés. Au sein de l'article F521.2 se trouve donc une sorte de machine ou de dispositif qui présente certaines ressemblances, toutes choses étant égales par ailleurs, à celle de l'article 16 de la Constitution. C'est une machine à faire face au péril, une machine à faire face, à répondre à l'état d'exception, quelle que soit la taille, caractère local, pas national, un petit spectacle, comment dirais-je, dans un petit théâtre, etc. Peu importe, il y a une situation exceptionnelle à laquelle un dispositif permet de faire face. Et cette machinerie possède en quelque sorte son autonomie au sein du référé liberté. On pourrait dire, par exemple, que l'article L521.2 a fonctionné à front renversé dans le passage de la décision de première instance du tribunal administratif de Nantes à la première des ordonnances Dieudonné. Le juge de première instance aurait fait prévaloir la composante fondamentaliste de l'article L521.2, alors que le juge unique du Conseil d'État, au contraire, a renversé la mécanique du référé liberté. Confronté à un péril pour les libertés qui était en même temps un péril pour l'État, une remise en cause de l'autorité de différents pouvoirs d'État, il a utilisé, ce juge, le référé liberté comme une occasion pour le pouvoir d'État de s'exprimer. Alors qu'est-ce que je veux dire ici par pouvoir d'État? Je répète, je n'ai pas de bon terme. Le terme de pouvoir d'État fait penser à ce que dit Georges Burdeau sur le président de la République de la Ve République. On pourrait parler après les juristes allemands et Olivier Beau de puissance de l'État. Je serais intéressé, moi, de parler, je le répète, de fonctionnement d'État ou de dispositif étatique. Qu'est-ce qu'on a, en somme toute? On a un processus, si on le prend sur sa... Ça fait comme une séquence. Un processus qui est initialement exécutif, mais qui devient presque sans solution de continuité juridictionnelle. On a un Conseil d'État qui transcende, j'ai essayé de le montrer, la séparation juge administratif juge judiciaire, puisqu'il vient résoudre un problème que plusieurs condamnations pénales ne sont pas parvenues à résoudre. Et puis, pourrait-on ajouter que la menace de condamnation pénale ultérieure ne parvenait peut-être pas à faire disparaître. Tous ces éléments peuvent laisser perplexe, et le premier point de mes développements visait à exprimer cette perplexité. Il pointe aussi en direction d'une forme d'intervention qui n'a rien de bien original pour le constitutionnaliste, c'est tout simplement l'État, les marqueurs tout à fait classiques de l'intervention étatique comme puissance, tu as parlé tout à l'heure de quelque chose de brutal, comme puissance de dérogation, c'est-à-dire imposer une solution nouvelle qui n'était pas la déduction mathématique des majeurs du raisonnement, c'est-à-dire qu'au fond on additionne Benjamin, Morsan sur Orge et Hoffmann, Gemmal, on n'a pas Dieudonné, on a quelque chose de plus. Le tout n'est pas la somme des parties. Et puis, puissance d'expression des valeurs morales de la société. Capacité à dire à un moment donné ce qui fait l'identité morale de la société française. On a aussi d'autres marqueurs de l'intervention étatique. La concentration par une seule autorité de compétences relevant d'organes ou de fonctions juridiques normalement distinctes. Un juge qui est un peu administrateur, un juge administratif qui est un peu aussi juge pénal. Tout ça, finalement, est combiné de manière intéressante. C'est pour ça que je disais que plutôt l'analyse contentieuse avec sa capacité à opérer des distinctions et des cloisonnements est très utile dans un certain contexte, mais c'est aussi intéressant d'en soulever les distinctions pour voir ce qui fusionne à certains moments. Et puis, autre marqueur de l'intervention étatique, la situation exceptionnelle, qui justifie cet effacement de la frontière entre les pouvoirs. Pour le dire autrement, que la mesure ait été prononcée par un juge unique sur la base d'un référé liberté, que cette mesure soit juridictionnelle, il y a une interprétation que je voudrais ici défendre, qui est que ça n'a pas une importance aussi considérable que cela. C'est au fond, peut-on dire, l'État qui est intervenu. Je ne veux pas dire l'État personne morale, je veux dire un fonctionnement étatique et un dispositif de réaction de l'État à un problème qui se posait à lui. Conseil du gouvernement, juridiction suprême de l'ordre administratif, corps d'origine d'une partie très importante des juristes de haut niveau intervenant au sein de l'exécutif, le Conseil d'État est tout désigné pour être le visage de cette puissance d'État, en quelque sorte indifférenciée. Alors, je ne veux nullement dire que le Conseil d'État s'est emparé de tous les pouvoirs, ce qui n'aurait aucun sens. Je veux dire au moins deux choses. Premièrement, que son intervention est la culmination, je veux dire par là le point d'aboutissement en même temps que la synthèse, d'un processus dans lequel étaient impliqués tant l'exécutif que les juridictions, tant les juridictions pénales qu'administratives. On pourrait dire aussi tant le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, que l'administration, à travers les préfets ou les autorités de police. Pour employer le vocabulaire des journalistes, le Conseil d'État a sifflé la fin de la récréation. Ça a fonctionné puisque très rapidement, le principal intéressé a modifié son spectacle pour en retirer, enfin apparemment, pour en retirer les aspects les plus litigieux. L'analyse du processus d'ensemble, de la séquence des décisions et des événements, met ainsi en évidence le fait qu'une analyse, en termes de séparation des autorités ne dit pas tout au sujet de ces ordonnances. Quand je dis que ici c'est de la puissance d'État qui a été exprimée, je veux dire en second lieu que pour comprendre les ordonnances de données, il est pertinent de s'arrêter ni à leur nature juridictionnelle, ni à leur caractère d'ordonnance de référé. Un raisonnement purement formel et une analyse qui en resterait au niveau contentieux nous empêcherait de voir que telles décisions sont aussi, parce qu'elles viennent terminer un processus d'administration et de mise en œuvre du droit, elles-mêmes des mesures d'administration, des sortes de super mesures de police, ou pour employer un langage ancien, de haute police. J'avais failli appeler cette intervention, par goût du spectaculaire, mais je n'ai pas le goût du spectaculaire, le retour de la haute police. J'avais aussi failli, et ce sera la transition vers le deuxième ordre de développement que je voudrais proposer, j'avais aussi failli parler de retour des libertés publiques. Je dirai un petit peu plus tard pourquoi. Je voudrais ici montrer comment cette intervention de l'État dans toute sa majesté, indépendamment du fait que c'est un... On nous a mis en évidence le fait que c'était un modeste juge unique déréféré dans des conditions très particulières qui est intervenu. On nous a dit aussi que le juge déréféré avait un office, c'est-à-dire un ensemble de pouvoirs et de devoirs totalement incommensurable avec le juge de la légalité, soit, c'est une grille de lecture respectable, je pense aussi le contraire. Je pense aussi qu'au fond, ce qu'a dit Camille au début est tout à fait frappant, il n'y aura pas de discussion au fond de la légalité de ces arrêtés, ça s'est arrêté là. La discussion contentieuse, très probablement, si je comprends bien, s'est arrêtée là. C'est donc ce qui fait que ça a marché. Surtout que le référé n'a pas seulement été un référé, ça n'a pas été seulement une sorte de constatation de l'absence d'illégalité manifeste, ça a été un point frappé sur une table. Il est maintenant possible d'essayer de prendre en compte certaines des formules que contient en particulier la première des ordonnances de données qui ont frappé les observateurs. Je pense à la référence à des propos, je cite, de nature à mettre en cause la cohésion nationale et à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment dignité de la personne, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et par la tradition républicaine. Fermez les guillemets. Alors, la référence à ces principes pose abondance de problèmes et de difficultés que les lecteurs n'ont pas manqué de relever. Je voudrais simplement en relever quelques-unes. Une question que je pose, parce que je ne suis pas nécessairement compétent, j'ai jamais réussi à trop voir comment on pouvait concilier dignité et contrôle de proportionnalité. J'ai l'impression que quand il y a dignité, elle n'est pas proportionnable avec quoi que ce soit d'autre, elle s'impose de manière moniste. Et donc, comment Benjamin et Morsan-sur-Orge peuvent vivre dans le même visa, peuvent coexister dans le même visa, plus compétent que moi m'expliquera. Je ne comprends pas. En quoi consiste la tradition républicaine ici évoquée, qui était déjà présente dans Hoffmann-Gleyman en 2009, si ma mémoire est bonne, mais qu'est-ce que c'est que cette tradition républicaine, désormais déconnectée des principes fondamentaux reconnus par les lois de républicaine, flottant dans les airs, comme disait Carl Schmitt de l'État fédéral, et flottant tout autant dans les airs, la cohésion nationale, dont je me demande à quelle base textuelle on peut éventuellement la rattacher, et si par hasard il n'y a pas de base textuelle, est-ce qu'il ne faudra pas revenir sur le mythe que le juge français ne se prononce toujours qu'avec une base textuelle au principe non textuel auquel il se réfère. Je vais le noter, ça, parce que c'est bien dit. Alors, face à ces interrogations, nous avons un élément de réponse dans la décision, la première décision de Dieudonné. Il me semble que l'explication réside dans la formule finale du considérant numéro 6, qui mentionne à ce sujet, je cite encore, « des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'État de veiller ». Voilà, ce sont des principes au respect duquel il incombe aux autorités de l'État de veiller. Et l'État y a veillé. Voilà, voilà ce qu'il a fait avec les ordonnances de données. Il a veillé à l'énonciation et au respect de valeurs morales. On pénètre ici sur un terrain où il est question de choses que les juristes n'aiment pas, avec lesquelles ils sont gênés, des valeurs, des positions et des interprétations politiques. De ce point de vue, opposer droit et politique, ou droit et valeur, à mon avis, est un peu trompeur. Non seulement parce qu'il y a inévitablement une politique du juge, mais parce que cette politique n'est pas nécessairement partisane. Je dirais que la beauté et la grandeur du cas français, du droit public français, c'est qu'elle l'est spécialement peu. Au fond, ça transcende les questions partisanes, mais c'est une chance. non pas politique au sens partisan, mais à mon avis au sens où le juge, pour légitimer ses décisions, fait appel à des arguments de fond, disons pour nous faciliter la tâche, le politique, par opposition à la politique. Ces arguments de fond, ils apparaissent dans la première ordonnance Dieudonné sous une forme très particulière, ce sont des arguments universalisés, que personne ne peut vraiment contester, personne ne peut être contre la cohésion nationale, personne ne peut... Enfin, il y a peut-être quelques personnes très particulières qui disent du mal de la dignité de la personne humaine, mais elles sont hors système. En gros, dans la discussion, dans le débat public en France, tout le monde partage ces valeurs-là. Et personne ne pouvant les contester, elles ont un effet unificateur. Le juge parle en surplombant la société, et il parle du point de vue qui est acceptable par toute la société. Il unifie en universalisant, en quelque sorte. Il entend rassembler la société autour de valeurs universelles, acceptables par tous et qui légitiment son intervention. Si toutes ces données sont prises en compte, on est alors en mesure, peut-être, de comprendre le traitement qui a été réservé aux libertés par les ordonnances. La défense des libertés, c'était l'idée de titre que j'avais eue, ressortit plus au registre des libertés publiques qu'à une vision en termes de liberté fondamentale. Si on doit chercher des labels, ça ne m'obsède pas, mais c'est une possibilité. Une conception, en tout cas, collective des libertés, impliquant l'État au sens, alors je vais parler après Olivier Beau, au sens d'État de citoyen, c'est-à-dire de collectivité humaine gouvernée. C'est cela, en tout cas, plus qu'une protection de la fondamentalité. Ici, la fondamentalité, dans L521.2, Véronique Champagne-Desplat avait écrit déjà il y a assez longtemps qu'elle avait un effet rhétorique. Oui, là, c'est de la rhétorique. C'est pas de la fondamentalité au sens d'une conception individualiste des libertés, mettant l'humain au premier plan et le protégeant contre toute atteinte. C'est pas l'individu, en tout cas, qui est protégé ici. D'où la référence à la cohésion nationale, d'où l'efficace. C'est pas un standard, à mon avis, mais disons pour nous faciliter la tâche de ce standard de cohésion nationale. C'est pas un standard parce qu'à mon avis, c'est pas normatif. S'il est question de cohésion nationale, c'est parce que l'État est ici à comprendre comme une communauté de personnes dont la vie libre et paisible a été menacée. Il n'est pas facile d'identifier des victimes individuelles, elles ne sont pas parties prenantes à l'instance. Mais l'État se présente donc comme la première victime de l'atteinte aux libertés, ou si l'on veut, le principal créancier des droits garantis. C'est la collectivité nationale dont la liberté ou les libertés, ou la dignité de certains de ses membres, ici les personnes de confession juive insultées dans le spectacle et qui ne sont saisies ici que comme des membres d'une communauté plus large, ça c'est une conception qui remonte à la Révolution française, c'est cette collectivité nationale qui doit être protégée et qui en même temps, dans le même mouvement, à travers la médiation de l'État, se protège. On pourrait rapprocher cette idée implicite dans les ordonnances de celle explicitée dans l'avis de 2009, l'avis contentieux Hoffmann-Glemann, qui est cité dans les visas, d'un préjudice collectivement subi à l'occasion d'atteinte portée à la dignité de la personne humaine. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas la réparation d'un dommage, c'est pas une communauté en particulier qui est visée, Camille y faisait mention, comme dans Hoffmann-Glemann où c'était les personnes victimes de persécutions antisémites, mais la logique est un peu la même. Une atteinte grave est portée aux intérêts d'une collectivité qui n'est pas précisément définie, mais qui existe bel et bien et que l'État décide de protéger tout aussi globalement. L'État se présente comme la communauté nationale, le juge unique parle au nom de la communauté nationale et il endosse les intérêts de cette communauté. Autrement dit, l'État, au sens de corporation gouvernante, se saisit des intérêts de l'État au sens de collectivité de citoyens. Alors, j'en viens à mon dernier ordre de développement. Cette intervention de l'État en majesté, cette manifestation de la puissance indifférenciée et universalisante de l'État a certainement des avantages. Elle a l'avantage que nous ne vivons pas au Kosovo ou dans un État sans État ou dans un État sans système étatique fort. C'est une chance pour la France et pour les Français d'avoir un véritable État. Et quand on n'en a pas, on sent sa douleur, si vous me pardonnez cette expression familière. Avoir un État est une garantie, et là, il a fonctionné, comme on l'a démontré. Ces modestes ordonnances en référé, etc., ont fait cesser le trouble, à peu près de manière qu'on peut juger satisfaisante. Mais il y a aussi des inconvénients. Il me semble qu'avec les ordonnances Dieudonné, nous voyons à l'œuvre, de manière évolutive, un peu changeante, mais quand même assez frappante, une manière française de rendre la justice, et en particulier une manière propre au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. À coup, si vous me pardonnez, je le dis dans le respect de ces autorités, hein, en particulier du Conseil d'État, à coup de ces... Il y en a Agnès Roglo, là, qui me regarde en fronçant les sourcils, à coup de ces visas majestueux, de ces formules autoréalisatrices très synthétiques, si courantes dans nos jurisprudences administratives et constitutionnelles, au moyen de décisions quand même encore assez brèves, même si cette ordonnance de données était peut-être plus longue que la moyenne dans le, en matière de référé liberté, de décisions brèves aux apparences déductives, articulant ces formules autoréalisatrices, ce qu'un professeur américain des années 30 avait appelé des « magic solving words », des formules autoréalisatrices dans une argumentation de type syllogistique, sans nécessairement en donner la clé de compréhension. On ne sait toujours pas ce que c'est que la cohésion nationale, on ne sait pas comment elle opère dans le dispositif, on ne sait pas ce que vient faire là la tradition républicaine. On nous dit un jour que la tradition républicaine, c'est rien, quand on parle de 89 alinéa 5 de la Constitution et qu'il ne faut pas lire. Et là, on nous dit que ça joue un rôle opératoire majeur. Hein, c'est quand même assez frappant. Je pense qu'il y a évolution. Je pense que le rapport Martin, qui préconisait d'enrichir la motivation, la rétropique, etc., montre qu'il y a transformation. Mais au fond, je pense que ça ne change pas tant que ça, parce que tant qu'on reste, on peut allonger autant qu'on veut les décisions, tant qu'on reste dans le cycle logistique avec des majeurs, des formules de principe qui sont en majeur, qui sont très universelles et donc avec un contenu peu tangible, et qu'ensuite on est dans la déduction à partir de ces formules, les décisions peuvent faire 200 pages si on veut, ça ne change pas grand-chose. C'est une technique juridictionnelle qui est en cause, ce n'est pas une valeur, une quantité en valeur absolue de motivation. C'est une affaire de structure interne, de logique profonde, c'est la manière dont le juge conçoit son intervention. Ben, le juge, je ne dis qu'une banalité, mais le juge en France, c'est l'État, ce n'est pas le cas dans tous les pays, si on fait du droit comparé. Et ça, je pense que ça aura du mal à évoluer. Il se trouve que cette manière de rendre la justice, indissociable de la conception classique de l'État en France, est peut-être un peu moins opératoire qu'autrefois. Hein. Les formules qu'on retrouve dans les ordonnances Dieudonné, elles ont leur beauté, c'est la beauté du grand genre républicain français, extrêmement digne, méritant le respect et qui a fait de la France le pays qu'il est, c'est-à-dire un pays vivable. Et un pays qui est sorti de la problématique de la guerre civile qui est toujours pendante chez nous. Nous, on n'est pas les Anglais, on n'est pas les Américains, on a toujours une problématique de guerre civile qui est toujours présente dans nos discussions politiques. Le juge vient, au nom de l'État, essayer d'y mettre fin, comme l'État régulièrement vient essayer d'y mettre fin. Donc je ne suis pas là pour être critique, j'essaye d'analyser. Ces formules avaient un sens dans une société assez unanimiste, cimentée par l'absolutisme monarchique, par le républicanisme dit autoritaire de la Troisième République, par le gaullisme. Mais aujourd'hui, point d'interrogation, il est possible de penser que ce dispositif est de moins en moins acceptable par la société. Je pense que jamais une ordonnance de référé liberté d'un juge unique du Conseil d'État n'a suscité une telle émotion, n'a suscité autant de réactions, et peut-être continuera à en susciter. On voit maintenant des décisions du Conseil constitutionnel faisant l'objet de manifestations de rue, Montpensier, mais enfin de rue quand même, attaquées directement devant la CEDH pour avoir été rendues trop vite, pour avoir été rendues dans des conditions de contradictoire ou de possibilité de discussion insatisfaisante. Ce n'était pas vrai il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Cet unanimisme de la société française, disons gaullienne, pour nous faciliter la tâche, a probablement... je dirais pas disparu, mais moins fort qu'il n'était par le passé. Il est aussi possible de voir que ce qui pose problème, c'est que notre société a une culture de transparence, d'individualisme, une attente de justification approfondie des décisions publiques, l'universalisation de l'exigence de motivation dont parle dans ses écrits Serge Guinchard, par exemple, le fait que ça fait partie d'une sorte de droit processuel global. Il est également possible de voir que ce qui pose problème spécialement dans ces ordonnances Dieudonné, et ce qui pose problème dans le fait divers, en quelque sorte, qui était concerné, c'est l'homogénéité de la société française. C'est son rapport à la pluralité des opinions, des choix de vie, des valeurs, c'est la question du communautarisme. Le juge est aussi le juge de la société, et la société a changé. Avec les ordonnances qui nous occupent, l'État me semble être intervenu en s'habillant des formes habituelles de la décision juridictionnelle française, ont été prononcées des formules sacramentelles dont nul ne peut vraiment se démarquer, mais qui en contrepartie sont générales jusqu'à l'insignifiance. Cette manière de prononcer les grandes formules républicaines sacramentelles en vue de trancher les nœuds gordiens de la vie sociale, cette manière de faire donc est-elle encore valable ? Ce qui est tout à fait clair, c'est que dès que ces décisions ont été rendues, exactement comme avec la décision du Conseil constitutionnel, il a fallu faire l'explication de texte. Et que le vice-président du Conseil d'État est immédiatement apparu dans la presse pour faire cette explication de texte. Et ça, c'est intéressant pour le juriste aussi. Ce n'est pas uniquement une politique de communication ou une affaire de relations publiques. C'est qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de matériaux informatifs pour le public qui a dû être fourni en dehors de la décision elle-même. Or, j'aime assez la formule du juge allemand Bunkenfer II qui disait « le juge se prononce dans ses décisions ». Le juge se prononce dans ses décisions. Quand il se prononce en dehors, c'est autre chose. Et c'est peut-être pas autre chose de nécessairement heureux, quelles que soient les bonnes intentions et quelle que soit l'efficace de la décision et des commentaires qui ont été faits qui m'inspirent aucune difficulté de fond. La question n'est pas là. On peut donc penser que malgré sa grande efficacité immédiate, enfin leur grande efficacité immédiate, les ordonnances qui nous réunissent aujourd'hui reflètent une conception des libertés de l'intervention publique qui tend peut-être à perdre de son efficacité et à s'effriter. Il est douteux, je le dis tout à fait crûment, que cette manière française d'aborder les libertés ait vocation à changer rapidement. Il y a eu des illusions en ce sens sur l'avènement de la fondamentalité, etc., l'état de droit, je ne crois pas trop. Je crois que tout ça est tout à fait classique, et que ça, c'est intéressant de l'analyser dans la longue durée plutôt que dans l'immédiateté, et le présent propos n'appelait nullement à un changement de quoi que ce soit. C'est un propos d'observateur, c'est pas un appel à des réformes, c'est un exercice dans lequel je suis très mauvais. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que, parce que là c'est du côté, comme diraient mes amis positivistes, de la science du droit et pas du droit, c'est que ça serait peut-être bien de se tenir à l'écart pour les universitaires des formules, par exemple, selon lesquelles le juge administratif serait, je cite, « un gardien des libertés ». Je vois pas l'utilité, je terminerai là-dessus, je vois pas l'utilité scientifique de pareil jugement. C'est comme si on disait, nous autres juristes, nous nous tenons à l'écart des jugements de valeur, pas de ça chez nous. Mais, aussitôt après, ce que fait le juge est bien. Hein, il agit toujours pour le mieux, il peut pas mal faire. Que le juge le dise à propos de lui-même, c'est parfaitement compréhensible, et qu'il essaye de le réaliser, c'est parfaitement légitime. Mais, à mon avis, il le réalise même assez bien, c'est pas, encore une fois, c'est pas le problème. Mais qu'on le dise à son sujet comme une sorte de conclusion scientifique ou de mantra, j'en vois pas la vraisemblance, ni l'utilité. D'ailleurs, aucune des personnes présentes à cette table ne l'a fait, c'est pas la question. D'une part, il vaudrait mieux regarder les choses au cas par cas, et dire parfois, en effet, des libertés ont été protégées, parfois aussi, le juge n'a pas agi dans le bon sens. Et d'autre part, comme le présent propos a essayé de le suggérer, la liberté est une notion difficile à définir, et malléable, de sorte que on pourrait penser, j'avais commencé par ces deux livraisons de BGDA très intéressantes, qui m'ont passionné, on pourrait terminer par l'histoire du rabbin qui doit trancher une controverse entre deux jeunes disciples. Il reçoit le premier, l'écoute, et lui dit « ben, tu as raison ». Il reçoit ensuite le second disciple, l'écoute, et lui dit « tu as raison ». Alors les deux disciples lui disent « Maître, c'est pas possible, nous disons des choses contradictoires, tu ne peux pas nous donner à tous les deux raison ». Alors le vieux sage réfléchit et dit « C'est vrai, vous avez raison ». Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce bel exposé qui, sous un angle différent et donc extrêmement complémentaire, je crois, enrichit énormément l'analyse de ces ordonnances. Je suis assez d'accord pour considérer que ces ordonnances n'ont peut-être pas mis fin, autant qu'il est habituel de la part des interventions du juge administratif, à la guerre civile, vu les réactions nombreuses et très violentes qu'elles ont suscitées, et illustrées notamment par le fait que le site du Conseil d'État, pendant plusieurs jours, a été hors de service, tellement il était attaqué, ou consulté peut-être, je ne sais pas s'il était attaqué, mais je crois qu'il a été attaqué par des personnes assez heurtées par ces diverses ordonnances. Voilà.